est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Figurez-vous une femme enceinte en pantalon, enfin, c'est indécent. Rien que d'y penser, c'est indécent. Pour l'enfant, pour les gens qui l'ont fabriqué, c'est indécent pour tout le monde, c'est affreux. Non, il faut supprimer cette mode-là, pour les Français. Nous ne sommes pas des gens frivoles à ce point-là, tout de même.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je trouve piquant ce matin de commencer par provoquer quelques surprises chez nos auditrices parisiennes. Peu d'entre elles, je le crains, savent qu'en se promenant en pantalon dans les rues, elles tombent sous le coup d'une ordonnance du préfet de police qui leur interdit, sous peine d'être traînées au poste, de porter des habits que la coutume attribue à l'autre sexe. Cette information pourrait être assez effrayante, mais je me hâte de dissiper toute panique en précisant que quand bien même ce texte demeure en vigueur, n'ayant jamais été abrogé, il date heureusement du 16 Brumaire en 9, c'est-à-dire du 7 novembre 1800. Et lorsque, voici quelques années, un parlementaire UMP, M. Jean-Yves Hugon, représentant de l'Indre, cher à George Sand, lorsque M. Hugon demanda l'abrogation de cette ordonnance, le gouvernement de M. Raffarin lui fit savoir, je ne sais pas ce qu'en penserait le Conseil d'État, que son caractère désuet, je cite, « suffisait à l'invalider ». Vous aurez compris que j'ai souhaité, de cette manière peut-être un peu trop badine, ouvrir une émission qui va être consacrée aux pantalons à travers les âges et se nourrir du livre remarquable que Christine Barr, professeure à l'université d'Angers, vient de publier sur ce sujet. Un livre qui démontre le mieux du monde que ce thème n'a rien de frivole malgré l'apparence et qu'il éclaire l'histoire heurtée et pluriséculaire de l'émancipation féminine et des relations entre les sexes. Entre vie privée et comportements sociaux, sexualité et pudeur, attitudes au travail et divergences esthétiques.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi, je dis que sans froufrou, Une femme n'est pas complète lorsqu'on la voit se retrousser. Son cotillon vous ensorcelle, son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. Froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Christine Barre, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson est interprétée par Berthe Silva en 1933, cette chanson très célèbre, mais il faut d'entrée de jeu observer qu'elle est écrite par des hommes, par Montréal et Blondeau sur une musique de château. Elle date de 1898 et je crois que nous y trouvons déjà un certain nombre des thèmes que nous allons avoir à traiter à propos du pantalon, le regard de l'homme sur la femme. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. Et puis il y a le sport aussi, la bicyclette. Beaucoup des questions que je vais avoir le plaisir de traiter avec vous ce matin. Vous reconnaissez là un état d'esprit qui était celui de la fin du 19e siècle ?
Oui, et qui continue d'ailleurs dans les années 20, puisque là, la chanson est interprétée donc dans ces années folles.
33 même, début des années 30.
Donc on est encore plus loin là, donc la mode de la garçonne est dépassée, et on trouve de plus en plus de pantalons pour le sport, pour la plage, mais on continue à défendre ces froufrous qui fabriquent la féminité. Donc l'objet du livre, c'est bien d'expliquer comment on fabrique la féminité et la masculinité et les symboles politiques que ces deux codes vestimentaires charrient.
C'est ce que nous allons effectivement évoquer longuement, avec également l'idée qu'il peut y avoir inversion des situations. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. C'est à la fois la vie publique, la politique, et c'est aussi l'intimité familiale qui est en cause.
D'ailleurs, l'expression « porter la culotte », au fond, elle est toujours employée à propos de femmes. Hein, c'est tellement évident pour
que
un
quoi,
homme
évident
qu'un
que
homme
quoi.
Porte la culotte. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et ça revient systématiquement, évidemment, le pantalon comme symbole du pouvoir domestique et politique. Les deux étant liés.
Cela dit, les plus jeunes de nos auditeurs, nos auditrices, sont surpris quand on leur dit que les lycéennes, encore au début des années 60, n'avaient le droit de porter en classe de pantalons que lorsque la température tombait à moins de 0 degré.
Beaucoup de témoignages existent sur cette pratique qui a révolté beaucoup de filles et de jeunes filles dans les années 60. D'ailleurs, une génération très féministe, hein, puisque le pantalon, le droit au pantalon est complètement relié à l'histoire du féminisme.
Mais ces années 60 que j'évoquais sont aussi celles où le pantalon commence de s'installer dans la haute couture, et dans la mode des plus favorisées de celles qui la portent. Écoutez ce reportage qui remonte au 2 décembre 1964 et qui est dû à Sophie Dumoulin. Elle est au Lido et elle interview Jean-Claude Brialy, Marie Belle et également Maria Callas.
C'était hier soir la première de gala du nouveau programme. Titre du spectacle, Oh, quelle nuit! Le tout Paris était là, enfin le tout Paris du spectacle, et Sophie Dumoulin a beaucoup remarqué certaines invitées en pantalon. Oui, vous savez, ces fameux pantalons en lamé, pailletés avec du tulle, de la fourrure, une tenue du soir qui n'a pas fait l'unanimité.
Madame Marie-Belle, je ne vois pas si vous avez revêtu un pantalon ce soir.
Non.
Vous êtes en robe du soir.
Je suis sortie avec Monsieur Brialy qui n'aime pas les femmes en pantalon.
C'est vrai, Jean-Claude Brialy?
Oui, je suis contre. À notre époque, de plus en plus, on ne fait plus de différence entre les filles et les garçons. Quand les filles ont les cheveux courts et les garçons les cheveux longs, de dos, on ne sait plus les reconnaître. On avait un moyen, c'est de voir ou d'apercevoir des robes. Et puis brusquement, on nous enlève tout ça, on nous met les femmes en pantalon même le soir. Porter un pantalon, croyez-moi, moi qui en porte depuis 30 ans, c'est très difficile.
Ce rire d'approbation est celui de Marivelle. Romy Schneider, ce soir, vous êtes en pantalon du soir.
Oui, et Mademoiselle Chanel.
Comment sont-ils, ces pantalons?
Très beaux, blancs.
Plus encore. Comment?
Non, blanc et doré.
Non, non, blanc et argent.
Et argent. Aimez-vous cette tenue?
Oui, beaucoup. Pour ce soir, en tout cas, et pour chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Monsieur Clouseau, êtes-vous d'accord?
Moi, je suis entièrement d'accord si les filles sont grandes.
Jean-Paul Belmondo, vous aimez le pantalon pour le soir?
Ben, si ce qu'il y a dedans est joli, oui.
Ce soir, avez-vous trouvé que ce qu'il y a dedans était joli?
Jusqu'à présent, oui.
Maria Callas, avez-vous mis un pantalon pour cette soirée de gala?
Non, je suis encore de vieux style, j'ai peur.
Voulez-vous nous dire si vous avez aimé toutes ces jeunes femmes que nous avons vues entrer en
oui,
pantalon du soir?
C'est très beau, je trouve. Pas tous, mais ils sont très, très, très intéressants.
C'est une grande soirée parisienne.
Oui, je suis heureuse, je suis ici tout à fait, enfin, simplement ici pour passer une jolie soirée. Je suis très contente.
Et Paris est heureux aussi de vous accueillir.
Vous êtes très gentille.
De vous recevoir.
Mille merci, mademoiselle.
Merci, madame.
Merci.
Est-ce que vous n'êtes pas frappée, Christine Barr, par la différence de tonalité entre les réactions à ces questions des femmes et des hommes?
Oui, mais c'est sûr que c'est plutôt du côté féminin qu'on va trouver cette aspiration à la modernité que représente le pantalon de la femme active, de la femme sportive. Ça compte beaucoup dans les images des années 60. Et on constate encore cette vieille peur, hein, on la retrouve, cette vieille peur de l'indifférenciation des sexes. On trouve aussi le rire qui a accompagné toute l'histoire politique du pantalon.
Et une
rire
forme de
peut-être
gêne,
qui
une forme
cherche
de gêne,
à exorciser.
Parfois.
Oui, il y a quelque chose de gênant, d'indécent. On bouscule des codes tellement anciens à cette époque-là et on les bouscule vraiment beaucoup et efficacement.
Le rire de Maribel signifie cela, me semble-t-il.
Peut-être une certaine gêne et un rapport de force qui existe encore entre la parole des hommes et la parole des femmes. Cette parole impérative masculine, Belmondo, qui est quand même assez brutale dans sa manière de parler du contenu du pantalon.
Jusqu'au grivois.
Voilà. Et Briali qui se permet de dire « je suis contre ». Face à cette parole impérative, les femmes vont devoir apprendre aussi à parler, ou peut-être pas seulement à parler, mais à agir. Et un langage vestimentaire, porter un pantalon sans nécessairement l'accompagner par la parole, c'est déjà dire quelque chose aux hommes. Et puis une dernière petite chose, à propos des remarques de Chanel, de Belmondo sur le pantalon, dans les années 60, il y a un grand changement, c'est que le vêtement devient signe du corps. Et non plus seulement signe social comme il l'était avec Chanel. C'est Roland Barthes qui a mis en évidence ce basculement très intéressant, cette mutation de la fonction du vêtement qui va désormais mettre en valeur le corps, corps féminin, puis aussi plus tard corps masculin. La norme change et en fait on devient beaucoup plus exigeant à l'égard du corps, plus mince, musclé, etc.
Plus qu'au, plus
s'agit-il
qu'au début,
d'une libération, c'est encore une autre question.
Plus qu'au début du siècle, du XXe siècle, vous pensez plus que dans l'entre-deux-guerres?
Oui, où le vêtement est là purement un code social.
Ce qu'on voit bien dans cet extrait, si on avait besoin de le vérifier, c'est que le pantalon est vraiment encore une forme de domination masculine, vous le dites très clairement. Or, si on va loin en arrière, on s'aperçoit que, peut-être paradoxalement, le pantalon, au contraire, signifiait qu'on était du côté des dominés. Je voudrais que vous nous rappeliez quelle est l'origine du mot pantalon. En gros, c'est un vêtement qui nous habille de la taille aux pieds en séparant nos deux jambes. Ça, c'est clair, une fois qu'on a dit ça. Mais cette chose, à première vue, bien ordinaire, a une histoire peu banale.
Oui, alors, on va dissocier le mot pantalon et le vêtement, parce que le mot pantalon, il est quand même assez tardif dans la langue française. C'est un emprunt qui provient de la Commedia dell'arte, et ce sont les Vénitiens qui portaient des culottes longues, et comme on les appelait du nom du saint qu'ils vénéraient, Saint Pantaléon. Mais pour la chose, on peut remonter à l'Antiquité.
Hein, à nos
et
ancêtres,
au peuple du Nord. Et nos ancêtres, les Gaulois, qui portaient des braies. C'était, avec nos mots d'aujourd'hui, des pantalons assez larges, retenus par un simple lien à la taille. Donc un vêtement sommaire, un vêtement très simple, un vêtement adapté au froid, un vêtement de travailleur, un vêtement de pauvre. Et cette connotation bah, disons plutôt négatif, hein, dans l'échelle des valeurs, va perdurer jusqu'à la Révolution française et même au-delà. Ça restera quand même le pantalon, le symbole du travail, d'un vêtement pratique adapté au travail, adapté aux activités en plein air.
Mépris des Romains à l'égard des Gaulois, stupéfaction de les voir habillés de la sorte et distinction entre la Gaule en braie, Gallia Bracata, et la Gaule en toche, c'est-à-dire cisalpine.
Oui.
Il y a les pantalons donc venus d'Italie. Il y a aussi l'univers originel du pantalon que constitue la marine à partir du XVIIIe siècle, porté par les matelots, les pêcheurs, encore des classes dominées.
Et l'enfant aussi. La mode enfantine de la fin du XVIIIe siècle habille les petits garçons de pantalons.
Oui, votre livre qui comporte beaucoup d'images intéressantes. Ce ne sont pas seulement des illustrations, en fait. J'ai l'impression que vous appuyez sur ces documents. Vous nous rappelez le fameux portrait de Madame Vigée-Lebrun, Elisabeth Vigée-Lebrun, représentant le dauphin en 1790 avec un pantalon blanc qui est légèrement resserré à la cheville par un ruban bleu.
Dès le début du XIXe siècle, on commencera à le mettre aux petites filles. Et donc, quand on voudra se moquer des femmes en pantalon, on les représentera avec ce type de pantalon blanc enfantin, une manière de les infantiliser et de les ridiculiser.
Le grand tournant, en somme, c'est le début du XIXe siècle, avec ce que, après un auteur anglais, psychanalyste, vous appelez la grande renonciation masculine.
Voilà, on passe d'un ancien régime vestimentaire à un nouveau régime vestimentaire bourgeois qui suppose pour les hommes un habit uniforme, discret, généralement noir. Alors on a l'uniforme militaire aussi, hein, qui compte beaucoup et qui est finalement plus chatoyant que le vêtement civil, qui a plus de prestige également. Mais en tout cas, c'est une grande renonciation au faste vestimentaire que les hommes connaissaient autant que les femmes à la cour du roi. Et là, on passe vraiment d'un ordre aristocratique à un ordre bourgeois. C'est la fin de la compétition esthétique. Enfin, la fin. Pas complètement la fin. Le dandysme existe, bien sûr, mais quand même la fin de la compétition esthétique entre hommes. Tandis que les femmes, elles, restent engluées, en quelque sorte, dans un ancien régime vestimentaire dont elles ne sortent pas. Et d'une certaine manière, ça peut symboliser leur exclusion de la citoyenneté. Et ce n'est pas moi qui surinterprète, mais ce sont vraiment des sources du 19e siècle, et notamment des sources féministes qui vont jusqu'à faire cette analyse-là. Les hommes se sont donné un costume qui met en valeur la liberté, l'égalité, la fraternité, et les femmes sont exclues de ces valeurs-là.
Avec naturellement un rôle de l'Église qui va conforter cela en rappelant le Deutéronome, la Bible, qui déjà interdisait que les femmes s'habillent en hommes, n'est-ce pas ?
Et que les hommes s'habillent en femmes aussi. Voilà, le code genré du vêtement est à la fois une loi religieuse et une loi civile. Maintes fois répétées, y compris pendant la Révolution qui décrète la liberté vestimentaire en 1793. Donc, grand pas en avant dans les libertés, tout en précisant dans le respect des vêtements de chaque sexe.
Donc ce moment est fondamental, ce moment de la Révolution et l'Empire, comme toujours.
Pour l'histoire du pantalon, c'est pour l'histoire politique du pantalon et pour l'histoire du pantalon tout court, c'est fondamental parce qu'on va vers la généralisation du pantalon pour les hommes et la disparition progressive de la culotte, tandis que les femmes sont toujours habillées de manière très compliqué, très inconfortable.
Vous évoquez le cas de cette femme qui s'était habillée en militaire pour accompagner son mari, que tout à coup on découvre comme étant de son sexe lorsqu'elle est en larmes sur le cadavre de l'autre qui vient d'être trucidé, c'est bien ça ?
Voilà, très belle histoire, mais représentative disons des dizaines, voire des centaines de cas, des milliers si on quitte l'espace français, de femmes qui deviennent soldats, qui empruntent l'uniforme masculin. Donc il y a effectivement les phénomènes de femmes travesties en hommes. Et l'ordonnance de police de 1800, qui interdit aux femmes de s'habiller en hommes, vise à combattre ce phénomène d'usurpation de l'identité masculine. Et ça, c'est une question passionnante. Pourquoi des femmes se travestissent-elles ? Pourquoi ont-elles envie ou besoin d'adopter les apparences des hommes ?
La réponse ne peut pas être simple parce qu'il y a des circonstances de nature très différentes. Celle qui souhaite accompagner son mari sur le front, ce n'est pas la même chose que par exemple cette Jeanne Barré que vous évoquez également et qui, va dans la troupe de Bougainville pour des explorations au long terme.
À la fin du XVIIIe siècle, elle réussit donc à se faire passer pour homme. Elle n'est pas reconnue alors que les marins vivent dans des conditions de promiscuité quand même assez grandes, mais avec un certain respect de la pudeur. Et donc, elle arrive à se faire passer pour homme et arrivée, l'histoire raconte que arrivée sur la plage à Tahiti, elle est immédiatement reconnue par les habitants et habitantes de l'île qui lui offrent les fleurs spécifiques réservées aux femmes.
Bougainville est très admiratif et il demande l'indulgence de la cour pour cette sage personne qui a 25 ans.
C'est vrai. Alors, il y a une espèce d'admiration par rapport à cette prouesse. Hein. C'est vrai des soldates, c'est vrai de certaines voyageuses, c'est vrai plus tard pour Jeanne Dieulafoy, l'archéologue. Ces cas de femmes habillées en hommes qui sont découvertes parfois peuvent ensuite, d'abord elles accèdent à une grande notoriété hein, et puis elles peuvent avoir des pensions militaires, donc on peut faire des exceptions. D'ailleurs l'ordonnance de 1800 prévoit des permissions de travestissement sur présentation d'un certificat médical.
Alors qu'au XVIIIe siècle, évidemment ce sont des travestissements de nature différente. Dans la littérature galante du XVIIIe siècle, on voit beaucoup d'hommes se déguiser en femmes. Je pense à Faublas de Louvet. « Et quoi ?» s'écria la marquise avec un étonnement bien joué. « S'il était fin, c'est un homme
!» Oui, donc des réseaux érotiques.
Et puis l'espionnage.
L'espionnage, la prostitution.
Par exemple, le fameux chevalier Déon.
Déon, oui.
Mais ça, c'est dans l'autre sens.
Voilà, c'est dans l'autre sens. Voilà, il n'y a pas de symétrie entre le travestissement masculin et le travestissement féminin. Les raisons sont très différentes et j'insiste quand même beaucoup sur les raisons économiques qui vont pousser des femmes dans une situation de survie hein, à accéder à des métiers masculins en s'habillant en homme et à gagner ainsi deux fois plus, voire encore davantage, grâce à leur travestissement.
Parce qu'on rejoint la question de la différence, évidemment, des salaires entre les hommes et les femmes, qui est de grande importance. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de ce début du 19e siècle, de l'Empire, que la condamnation des femmes portant pantalon s'installe très solidement. Et au fond, ce propos de Coco Chanel, qui pourtant tout à l'heure paraissait en faveur du pantalon, ce propos de Coco Chanel qui remonte à juillet 1970, sonne encore assez contemporain du début du 19e siècle.
Contre le pantalon, hors de la campagne. À la campagne, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais se promener dans les rues habillé en monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'abord parce que ce sont des hommes laids. Peut-être que je serais contente si je voyais des beaux hommes, mais une femme ne fait jamais un bel homme. Il a le derrière trop bas, il a les épaules pas assez larges. Et enfin, je ne suis pas enivrée de voir un homme-femme. Moi, ça ne me plaît pas du tout ça. Je trouve ça très laid. Je trouve que ça appétit la femme. C'est bête, ça lui fait prendre des airs, ça lui donne un vocabulaire qui ne lui ressemble pas. Je crois qu'il est temps de penser à la féminité. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Tant qu'elles ne sont pas féminines, quand elles ne le seront plus, zéro, allez faire le ménage. Oui, c'est sûr. Figurez-vous une femme enceinte en pantalon, enfin. C'est indécent. Rien que d'y penser, c'est indécent. Pour l'enfant, pour les gens qui l'ont fabriqué, c'est indécent pour tout le monde, c'est affreux. Non, il faut supprimer cette mode-là pour les Français. Nous ne sommes pas des gens frivoles à ce point-là, tout de même.
Sur la différence physique des hommes et des femmes, qui est incontestable, mais qui sert de motif pour interdire le pantalon aux femmes, on peut renvoyer à ce texte que vous citez du naturaliste Julien-Joseph Viret, qui donne une version canonique dans son histoire naturelle du genre humain, de l'homme et de la femme, physiquement parlant. Les parties supérieures du corps de l'homme, telles que la poitrine, les épaules et la tête, sont fortes et puissantes. La capacité de son cerveau est considérable et contient 3 ou 4 onces de cervelle en plus, suivant nos expériences, que le crâne de la femme. Dans la femme, au contraire, la tête, les épaules, la poitrine sont petites, minces, serrées, tandis que le bassin ou les hanches, les fesses, les cuisses et les autres organes du bas-ventre sont amples et larges. Et voilà une analyse qui fonde pendant des décennies le refus du pantalon fait aux femmes.
Voilà qui démontre aussi que Chanel était vraiment conservatrice, malgré la réputation de très grande novatrice qu'elle a et qu'on pourrait relativiser. Le ton aussi très impératif qu'elle a me semble intéressant. Il faut supprimer. On peut penser là à l'expression « les diktats de la mode », expression qui a encore tout son sens dans les années 60. Mais ça va exploser, ça, dans les années 70. On passera où tout est permis et les discours à la Chanel ne seront plus possibles.
1848, comme toujours, est un moment très intéressant. La révolution de 48, il y a eu déjà des événements annonciateurs au moment des Saint-Simoniens, par exemple. Dans les années 1830.
Et le pantalon est déjà présent, puisque les Saint-Simoniens inventent un costume militant et ne songent pas à créer l'équivalent pour les femmes, alors même qu'ils sont plutôt phylogynes et aujourd'hui on les considérerait comme féministes, mais ce féminisme a des limites. On ne touche pas au code de genre. Et c'est assez intéressant de voir ces images de Saint-Simoniennes en pantalon qui ont été complètement inventées par les détracteurs des Saint-Simoniens, pour décrier leur théorie de la femme libre. Et en 1848, on va retrouver à nouveau beaucoup d'antiféminisme qui passe par l'invention à nouveau de femmes pantalonnées qui revendiquent le divorce, l'amour libre et évidemment le droit d'être citoyenne.
C'est ce qu'exprime en somme cette fameuse Marseillaise des cotillons qui part précisément d'une revendication, porter la culotte.
Tirant, portant culotte, femme, notre jour est venu. Point de pitié, mettons en vote tous les torts du sexe barbu. Tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, vésuvienne debout. Et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux. Respect au cotillon. L'homme se despote sauvage, eut soin de proclamer ses droits. Créons des droits à notre usage, à nos usages ayons des lois, à nos usages ayons des lois. Si l'homme en l'an 93 eut soin de ne songer qu'à lui, travaillons pour nous aujourd'hui. Faisons-nous une Marseillaise. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux. Respect au cotillon. On dit qu'Ève, notre grand-mère, n'avait chemise ni maillot. Supprimons notre couturière. Oui, la couturière est de trop. Oui, la couturière est de trop. La liberté chaste amazone n'admet ni voile ni verrou. À la barbe de nos époux, luttons comme à la cédémone. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux. Respect au cotillon.
Dans ce remake fameux de la Marseillaise, on voit bien Christine Barque, la distinction entre la culotte et le pantalon, qui était si claire au XVIIIe siècle, a perdu de sa force.
Oui, mais bon, on peut les prendre aussi comme synonymes et comme une figure stylistique aussi. Hein. Et puis, il y a un rappel évidemment de l'épisode révolutionnaire de 1793. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce chant, c'est qu'il s'agit d'un canular, enfin d'une fausse chanson féministe. Aujourd'hui, elle est rentrée dans le patrimoine de la chanson féministe. Et c'est terrible pour une historienne de faire ce constat, parce que c'est un exemple parmi d'autres de littérature antiféministe pendant la période de la Révolution de 1848, qui se termine quand même très mal pour les femmes. Enfin, très tôt, en juin 48, on ferme les clubs de femmes. Les pétitions qui demandent le droit de vote tombent dans les oubliettes. Et les quelques féministes organisées à l'époque vont vite être exilées, réduites au silence. En revanche, que de bruit du côté des antiféministes, que de d'images de vésuviennes portant l'uniforme de la garde nationale.
Le virago pantalonné.
Mais oui, et c'était le terme vésuvienne vraiment attaché à la révolution de 1848.
Alors, donc vésuvienne, là, racontez-nous comment est né ce canular là encore.
C'est encore un autre canular.
Expliquez-nous.
Une société d'ouvrières qui aurait manifesté vers l'hôtel de ville en mars 1848 pour réclamer le droit de vote. Et ensuite, c'est repris par les journaux, par les humoristes, notamment par Charles de Beaumont qui fait toute une série charmante d'ailleurs sur les vésuviennes, amusantes. Qui représente l'inversion des rôles. Donc les maris à la maison s'occupant des enfants et les femmes qui participent à la garde nationale et accèdent à une liberté alors, très sexuelle. Hein, beaucoup de dessins tournent autour de cette question de la liberté sexuelle. Également parce que le débat sur le divorce occupe déjà les contemporains, sur le rétablissement du divorce hein, après son interdiction en 1816. Et ça, c'est une question très controversée.
Il faudra attendre les années 1880, la Troisième République et la loi Naquet pour que le divorce soit créé à nouveau. On retrouve chez ces humoristes, parfois chez ces pamphlétaires qui peuvent devenir assez violents contre les femmes dont vous parlez, toujours les mêmes thèmes, en gros. La virago pantalonnée veut le pouvoir, il prend. Elle est armée et elle exerce la violence. Et puis, naturellement, elle est laide et elle décourage l'amour.
Oui, c'est ainsi que j'ai pu résumer le contenu de ces dessins. Innombrables, très efficaces. Là, on peut parler de l'efficacité de cette violence symbolique avec vraiment la force incroyable de cette figure de la femme en pantalon virilisée, armée... Pas toujours en lady, là, ça dépend des dessinateurs. Par exemple, les Vésuviennes de Beaumont, elles sont plutôt jolies. Les débardeurs de Gavarni sont pleines de charme aussi.
Et c'est là qu'on a envie de parler en particulier de George Sand. Disons, c'est elle qui s'exprimait de la sorte. « Soyez rassurés, je n'ambitionne pas la dignité de l'homme. Elle me paraît trop risible pour être préférée à la servilité de la femme. Mais je prétends posséder aujourd'hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seuls les hommes, croyez avoir le droit de jouir. » Et sous l'angle qui est le vôtre, c'est-à-dire Christine Barr, l'histoire du pantalon, on trouve aussi des comportements de George Sand qui ont beaucoup fait jaser, qui ont provoqué beaucoup de commentaires quand elle portait des pantalons.
Des commentaires, mais jusqu'à nos jours. Yves Saint-Laurent, commentant ses créations dans les années 60, fait de multiples fois référence à George Sand. Elle est la première, elle est la plus grande, celle qui s'explique sur le port du pantalon, port qui n'est pas systématique chez elle. Elle aime le cigare et les confitures, elle aime s'habiller en femme d'une manière très élégante et s'habiller aussi en homme. Elle aime les deux genres, elle veut posséder et maîtriser les deux genres, les codes des deux genres, ce qui lui donne cette force aussi créatrice. Elle explique le lien avec son métier d'écrivain. Entendre des conversations masculines qui ne sont pas destinées à des oreilles féminines. C'est formidable quand on est écrivain. Comment écrire en étant uniquement enfermé dans un milieu féminin? C'est possible, bien sûr, mais elle ouvre complètement son horizon. Et comme elle a été une petite fille élevée dans une assez grande liberté, tout ça lui paraît assez naturel.
Le point de départ est important.
Elle ne revendique pas.
Sa grand-mère, c'est son milieu familial, n'avait pas imposé, contrairement à ce qui se passait d'ordinaire, qu'elle soit une petite fille habillée en petite fille avec des poupées.
Oui, tout à fait. Et puis c'est, elle rejette le corset aussi, elle pratique l'équitation qui a joué un grand rôle émancipateur hein, pour les filles. Sa mère aussi s'est habillée en homme. Et dans Histoire de ma vie, George Sand explique très bien tous les avantages qu'il y a à s'habiller en homme. Elle évoque la question du coût aussi différent du vêtement pour les hommes et pour les femmes. Hein, quand on est une jeune femme, pas pauvre, mais n'ayant pas de grands moyens financiers, s'habiller en homme, c'est quand même plus pratique. la possibilité de circuler dans Paris la nuit sans craindre d'être agressée, faire durer plus longtemps ses vêtements. Voilà, elle évoque toutes ces choses-là dans ses mémoires.
Elle reprend cette idée de contemporain qu'au fond, cette inégalité entre la femme et l'homme est créée notamment parce que la jupe, la robe sont des vêtements ouverts alors que le pantalon sont des vêtements fermés. C'est important.
C'est la grande différence entre les deux vêtements. Et au XIXe siècle, on trouve indécent que le vêtement féminin soit tout simplement fermé. Il y a un principe d'ouverture du vêtement féminin, mais d'ouverture totale, puisque les dessous fermés sont rares, très rares. Les danseuses en portent, bon, dans quelques professions, on en trouve. Donc il y a en quelque sorte un libre accès au sexe féminin qui est érotisé comme tel, hein, pas d'obstacle. Il suffit de remonter les jupes. Et il y aura toute une acculturation par rapport au dessous à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et on érotisera les froufrous à ce moment-là.
Les choses vont évoluer, mais ne vont évoluer que lentement. Et en particulier, avec cette résurgence constante du refus de la femme nouvelle. Il y a à la fin du 19e siècle une sorte de dialectique entre ceux qui s'inquiètent de cette éventuelle libération de la femme, notamment par le port du pantalon, qui va arriver de façon marginale, par le sport en particulier, et puis ceux qui prévoient une évolution. Je voudrais vous faire entendre un texte de John Grant Carteret, qui a été publié en 1899. C'est un publiciste qui a du succès à l'époque. Un extrait de La femme en culotte. C'est un texte lu par Henri Poirier pour l'émission Frisson fin de siècle, qui avait été produite par Jean-Pierre Rioux en août 1990. Écoutez.
La véritable révolution, la plus grande réforme de notre siècle, peut-être, au point de vue des mœurs et des idées, c'est justement la femme en culotte, née de la bicyclette et des sports triomphants. « Plus de pastilles sexuelles !» crient les réformateurs du costume. Et tandis que tombe la jupe, la culotte apparaît. En attendant que le pantalon, dont on peut suivre les timides apparitions, entre en ligne de compte. Un jour, sans doute, entre la culotte et le pantalon, il y aura lutte. De la culotte universelle ou du pantalon universel, qui l'emportera ? On ne saurait le dire. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que la culotte, c'est encore la femme portant la marque, l'étiquette extérieure de son sexe. Tandis que le pantalon, c'est la femme absolument homifiée. L'incognito complet, la possibilité de voir, de circuler tout à son aise dans la rue, de parcourir le monde sans être l'objet d'aucun regard indiscret. L'égalité pour tous, deux jambes de chair dans deux jambes de drap.
C'est un texte qui vous paraît révélateur d'une évolution des esprits, d'une inquiétude, d'une...
Non, pas particulièrement. John Grant Carteret est plutôt partisan de ses culottes et pantalons pour les femmes. Il y a consacré tout un livre abondamment illustré qui montre bien que c'est une question 1899, année 1900, une question constamment présente. Hein, entre autres parce que le vélo est devenu une pratique courante et qu'on a beaucoup discuté de l'adaptation du vêtement féminin pour cette activité, mais ça n'est pas la seule raison. D'autres sports d'ailleurs féminins se développent, mais je crois que surtout il faut penser à l'essor du féminisme dans ces années-là. Et John Grant Carteret le prend en compte d'ailleurs dans d'autres passages de son livre. C'est vraiment la belle époque du féminisme et le féminisme appelle des réactions antiféministes. Et un des enjeux, c'est la réforme du costume féminin. Les femmes nouvelles, les femmes libres pourront-elles continuer à porter le corset, à porter des robes traînantes, salissantes, dangereuses, et les médecins s'en mêlent. Donc le courant hygiéniste qui se développe beaucoup aussi sous la Troisième République participe à ce débat sur le vêtement. Et puis, autre interférence également, une homosexualité féminine plus visible. La femme en pantalon évoque d'une manière presque indissociable la figure de la lesbienne et la figure de la féministe. Ce qui ne manque pas de poser des problèmes pour les féministes, qui sont quasiment tout le temps gênés par cette assimilation, qui prennent des distances par rapport à ce modèle de virilisation. Donc les féministes qui ont réellement revendiqué le port du pantalon à ce moment-là sont très rares. ce sont les antiféministes qui prétendent que les féministes luttent pour le droit au pantalon. Beaucoup de féministes sont très conventionnelles par rapport aux normes de genre.
Alors j'ai envie de vous poser une question très concrète. Lorsque Madame Astier de Valzer décide d'aller se battre en duel avec une doctoresse, comme on disait, anglaise à Waterloo, parce qu'on ne pouvait pas se battre en duel en France, est-ce qu'elle portait un pantalon ou est-ce qu'elle était en jupe ?
Alors, je pense qu'elle était en pantalon. Elle pratiquait l'escrime, effectivement, et donc on la voit avec une culotte. Une culotte et des bas, mais donc une tenue masculinisée. Elle a été le modèle de Madeleine Pelletier un petit peu plus tard, qui a été la féministe qui a théorisé la virilisation des femmes comme voie de l'égalité des sexes, sans être vraiment entendue par les féministes de son temps.
Et naturellement, ça provoque l'exacerbation des critiques de ceux qui refusent cela. Vous citez des textes d'Octave Uzanne, par exemple, qui en plus ajoute de la xénophobie à la critique, puisqu'il dit que c'est l'influence de l'anglomanie qui joue un rôle essentiel. Et un autre qui s'appelle Charles Turgeon, qui s'écrit « comme si nos plastrons valaient leur corsage, il faut laisser cela aux Anglaises ».
Alors, l'antiféminisme est souvent relié à l'antisémitisme et à la xénophobie. Donc ça, c'est un fait. Mais par ailleurs, il faut bien dire que la liberté vestimentaire des femmes est beaucoup plus défendue en Angleterre et aux États-Unis qu'en France. La France est conservatrice par rapport à ces pays. Alors, c'est très ambigu comment aux États-Unis et en Angleterre on a défendu le pantalon pour les femmes. C'est peut-être aussi par puritanisme, pour désérotiser les apparences féminines. Il y avait vraiment toute une réaction contre les modes parisiennes, accusées d'être indécentes, immorales, etc. Donc, du côté anglo-saxon, il y a aussi un rejet de ce qui se passe à Paris.
C'est un ressort qu'il faut évoquer aussi.
C'est compliqué, mais le pantalon féministe, il a été inventé aux États-Unis. C'est Amelia Bloomer en 1851. Il y a une réalité quand même derrière ce propos, certes anglophobe, de ce Charles Turgeon, professeur à la faculté de droit de Rennes.
Passons vite et opposons-lui par exemple la féministe Hubertine Auclair qui en 1899 donne une interprétation politique à la transformation majeure qui a été impulsée par la Révolution. Les hommes libres ont uniformisé leurs costumes simples. Celles qui rêvent de devenir leurs égales ne peuvent prétendre conserver les artifices d'esclaves, le luxe anti-égalitaire qui ne s'acquiert qu'au détriment de la liberté.
Merveilleuse citation pour mon propos, parce qu'elle a compris le phénomène de la grande renonciation masculine. Le passage à la citoyenneté pour les hommes suppose un sacrifice narcissique et esthétique. C'est comme ça que ça s'est passé pendant la Révolution et ensuite. Les femmes vont-elles faire à leur tour leur grande renonciation ? Vont-elles faire ce deuil du genre féminin tel qu'il a été construit par les modes, les froufrous, etc. Olympe de Gouges posait déjà la question pendant la Révolution, en engageant les femmes à abandonner l'aristocratie de la beauté.
Et ça, c'est un choix important, non ?
Oui, tout à fait. Un choix politique que très peu de femmes étaient décidées à faire. Ces voix-là sont restées des voix isolées, mais en même temps, il y avait une grande cohérence intellectuelle dans leurs propos, une grande cohérence idéologique.
Le thème de la liberté, vraiment, est très, très, très important tout le temps. Encore aujourd'hui, je pense à cette citation que je trouve de Sonia Riquel, qui dit « Un pantalon suit vos jambes, une jupe mène sa vie, le pantalon vit la vôtre ».
Mais aussi le pantalon, c'est vivre sans serrer les genoux. J'aime beaucoup cette expression qui en dit long, évidemment, sur le vêtement n'est pas seulement un bout de tissu, il détermine nos postures, nos mouvements. Et le vêtement féminin a quand même été conçu comme une entrave.
Alors c'est cette entrave qui commence d'être desserrée, vous le disiez il y a un instant, grâce en particulier au sport. On ne peut pas minimiser l'importance en particulier de l'arrivée de la bicyclette. Racontez-nous ça.
Elle provoque des tas de commentaires de médecins, d'hommes politiques, de juristes. Tout le monde se prononce dans ce débat pour ou contre les femmes à bicyclette et surtout en quelle tenue. Donc la culotte de zouave va apparaître à ce moment-là et être largement adoptée. Mais pour beaucoup, c'est une catastrophe esthétique. C'est l'annonce de la fin du monde, la fin de la différence des sexes. Donc ce qui est amusant dans cette histoire du pantalon, c'est que on a beaucoup d'épisodes de cette grande peur de la fin de la différence des sexes. Et les années 1880-1890 pour le vélo, c'est tout à fait ça.
Rappelons-nous Foufrou tout à l'heure, en culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Et moi, je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. On trouve même des publicistes du temps, des observateurs, qui disent que c'est effrayant parce que les femmes qui ont une bicyclette, encore, ça peut justifier leur culotte de soie, mais en plus, elles en profitent souvent, ayant laissé leur bicyclette quelque part, pour continuer à se promener de la sorte. Cette citation de la lanterne, où on trouve ce morceau d'anthologie à propos de la bicyclette et des femmes, « Ah, les matines, il y a si longtemps qu'elles en rêvaient de ce costume masculin. Sur 10 femmes vêtues en bicycliste, 6 au moins se promènent paisiblement à pied, sans la moindre bicyclette. » Quel scandale!
Oui, on dit la même chose des cavalières et des alpinistes.
Les exploratrices.
Le prétexte, voilà. Oui, bah pour Jeanne Dieu Lafoy, par exemple, c'est très clair.
Qui était Jeanne Dieu Lafoy?
Elle était mariée donc à un archéologue qu'elle a suivi en Perse pour des fouilles archéologiques. Et là, ils ont fait des découvertes assez extraordinaires. Donc le couple est devenu célèbre. Elle s'habillait pour des raisons pratiques, dit-elle, en pantalon, pour réaliser ses fouilles aux côtés de son mari. Mais en réalité, elle était déjà habillée en homme avant et elle s'est engagée comme franc-tireur dans la guerre de 1870. Et une fois revenue à Paris après ses fouilles, elle devient écrivain et elle s'habille toujours de manière masculine et avec les cheveux très courts. C'est une excentrique, une plutôt conservatrice politiquement, catholique, donc pas du tout le profil d'une Madeleine Pelletier. Ce qui montre quand même que dans cette histoire du pantalon, on trouve une très très grande variété d'attitudes, mais en tout cas, le fil conducteur pour un certain nombre de femmes de l'expérience de la liberté qui peut aboutir ou pas à des revendications plus collectives. Jeanne Dieu Lafoy en a une quand même, elle dit à l'approche de la guerre de 1914 qu'elle aurait aimé avoir l'honneur d'être la première femme intégrée dans l'armée française.
Toujours les femmes militaires, hein, oui. Depuis la Révolution on les retrouve. Et dans ce panthéon du pantalon, si je puis dire, on trouve aussi la duchesse d'Uzès, qui avait tellement soutenu Boulanger au début de sa carrière, et qui, elle, trouve le pantalon et une certaine forme de féminisme par l'intermédiaire de la chasse à cour. Le cheval, disiez-vous.
Oui, et la conduite automobile, qui implique aussi une évolution du vêtement féminin.
C'était donc une chanson de Serge Gainsbourg, interprétée par Franz Gall, « Nous ne sommes pas des anges », une chanson de 1965. Plutôt rassurante, non, cette chanson, Christine Barr?
Mais oui, les filles aiment les garçons aux cheveux longs, et les garçons aux cheveux longs aiment les filles en pantalon. Donc on accepte, alors filles et garçons, hein, mode juvénile. Le changement est venu de toutes les catégories sociales d'ailleurs, avec le jean qui est porté dans les différentes classes de la société et qui est vraiment le vêtement mixte par excellence. Donc là, on rompt avec une tradition, comme on l'a vu, très ancienne, de peur de l'indifférenciation des sexes. Donc le jean est très important, mais aussi toutes sortes de pantalons féminins et féminisés, accessoirisés. Et la condition de la légitimation du pantalon pour les femmes, c'est quand même ça, cette accessoirisation, cette invention de formes dites féminines, de choix de tissus, de choix de couleurs qui vont faire que voilà, on a, le pantalon ne sera plus considéré comme masculin, ce qui fait tomber la vieille définition du travestissement. comment, à partir des années 60, définir un vêtement masculin et un vêtement féminin. Les femmes gagnent à ce moment-là le droit de porter le pantalon et réussissent à transformer ce pantalon en vêtement également féminin. Ça, c'est très, très important. La définition du travestissement est complètement obsolète. Et pourtant, en 1969, un an après mai 68, 4 ans après cette chanson, Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, refuse d'abroger l'ordonnance de 1800 en disant « on ne sait jamais, les modes sont si changeantes, cette ordonnance pourrait retrouver une certaine utilité dans l'avenir, soyons prudents ». Je lui ai écrit peu avant son décès.
Qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
Et il m'a répondu que ça lui était vraiment sorti de la tête. Mais que ça, ma première hypothèse, je cite sa lettre, « ma première hypothèse fait entrer en jeu mes goûts personnels, qui assurément n'auraient pas dû avoir leur place dans un si haut débat. Oui, je l'avoue, je trouvais la jupe ou la robe revue par Christian Dior et Yves Saint Laurent infiniment plus saillante que le pantalon masculin, taillé le plus souvent dans un jean peu propice à l'élégance. »
Un homme de sa génération.
Je coupe un petit peu cette lettre, mais qui m'a beaucoup touchée et que je trouve intéressante parce qu'il a vraiment voulu démontrer qu'il n'était pas antiféministe et qu'il le prouve par différentes décisions qu'il a prises par la suite qui ont permis, par exemple, aux femmes d'entrer dans les carrières de l'aviation civile, d'entrer à la bourse qui était interdite aux femmes depuis des siècles. Donc il se sent plutôt féministe, mais il reconnaît là une sorte pas d'erreur, mais enfin d'incompréhension des enjeux, en fait, autour de cette ordonnance.
On retrouve aussi la question du travail, car c'est fondamental. L'histoire du travail fait partie de votre histoire du vêtement, et en particulier cette histoire du pantalon. Quand on songe qu'en 1895, Marie Curie et son mari, Pierre Curie, se font donner des bicyclettes et partent en voyage de noces sur cette bicyclette-là. Ce n'est pas encore un tandem qu'au moment du Front populaire. Oui. Et naturellement, ils partent avec un pantalon des deux côtés, ou en tout cas une culotte
Marie
de zouave
Curie
du côté de Marie Curie.
Une culotte cycliste. Elle était très sportive. Et elle avait conscience que l'épanouissement intellectuel devait aller de pair aussi avec un certain épanouissement physique, et que la liberté des femmes n'était pas seulement dans l'accès aux études supérieures, l'accès à des professions scientifiques, par exemple, mais aussi dans l'accès au sport. Elle skiait, elle nageait, elle faisait du vélo.
Le travail, oui, sur les routes de Bretagne, autour de l'Arquest. Mais il y a évidemment toutes les femmes qui sont au labeur ouvrier et qui, à cet égard, s'estiment ou qu'on estime légitimées.
Oui, alors là, leur situation est un petit peu compliquée, surtout à cette époque-là, parce qu'elles sont exclues de la féminité bourgeoise. Donc il y a l'enjeu pour elle d'accéder à ce type de féminité associée à l'oisiveté des bourgeoises. Donc les femmes ouvrières souvent subissent le pantalon ou une tenue masculinisée et sont privées d'une certaine force de séduction de ce fait. Donc certaines ont pu considérer le pantalon comme un vêtement pratique et adapté, et d'autres rêvaient d'être habillées comme des bourgeoises féminines en corset. Et la situation est donc un petit peu compliquée de leur côté. Mais jusqu'à nos jours, la question se pose du droit des travailleuses au pantalon. Pour les hôtesses de l'air d'Air France, c'est seulement en 2005. Et dans beaucoup de métiers, en contact avec le public, les femmes ne sont pas autorisées à porter le pantalon. Hier, j'étais à TF1. Les hôtesses de TF1 portent la jupe obligatoire.
Et Madame Alliot-Marie raconte volontiers comment, dans les années 60, il a fallu qu'elle impose son autorité de jeune attachée du cabinet d'Edgar Faure, qui était ministre des Affaires sociales, pour entrer au Parlement, alors que les huissiers voulaient l'en empêcher, parce qu'elle était en pantalon.
Voilà, donc les femmes politiques intéressantes à creuser, ce que je fais dans le livre, parce qu'elles sont sous le feu des médias et particulièrement exposées aux critiques. D'une certaine manière, elles sont toujours trop masculines, trop féminines. Leur stratégie vestimentaire est compliquée. Mais pendant longtemps, elles ont eu une attitude conventionnelle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles se sont un petit peu libérées de ces conventions. Et dans la photo du gouvernement en 2007, on voit une majorité de femmes ministres et secrétaires d'État en pantalon.
On ne pourrait plus qualifier les ministres qui avaient été si promptement remerciés par le Premier ministre Alain Juppé en 1995, on ne pourrait plus les qualifier de jupettes.
Effectivement, dans le double sens de jupettes. Hein.
Quoi qu'il en soit, dès 73, on voit que les esprits ont déjà beaucoup évolué. On est 15 ans après ces interdictions que j'évoquais dans les lycées aux filles de porter le pantalon. C'est un reportage sur les femmes en pantalon à Paris qui est extrait du journal télévisé, 11 mai 1973.
Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femmes, sans que pour autant elles ne soient inscrites au MLF, soient à ce point incompatibles avec le port du pantalon? Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express.
Alors, mesdames, faites-y vos chauffeurs, là, servez-vous.
Il en faut pour tous les goûts, hein.
Pour les mains, pas pour les grosses, hein. Pour mon
goût personnel, moi, je trouve qu'une femme, c'est plus jolie en robe.
Hein.
Oh oui. 2 francs complets, merci.
Oh, ben, c'est pas mal.
Pourquoi c'est mieux la femme, tout femme?
Parce que le pantalon est payant pour les femmes.
Ah oui.
Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme?
On est pour.
Et dans l'administration?
Aussi.
Dans la fonction publique?
Oui.
Les avocats?
Oui.
Les huissiers?
Tout le monde.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de raison.
Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. Ce qui signifie, compte tenu de l'usure, que chaque Française devrait avoir dans sa garde-robe 2 ou 3 pantalons. Et la production monte en flèche à tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe.
La mort de la mini-jupe, c'est un petit peu exagéré là. Hein. D'abord, la mini-jupe a aussi été un symbole de libération dans les années 60, je tiens à le dire. Et la jupe s'est maintenue. Le pantalon a certes triomphé dans la vie quotidienne des femmes, dans l'univers du travail, mais la jupe est restée aussi. Les femmes ont visiblement tenu à avoir la liberté de choisir entre le vêtement ouvert, le vêtement fermé, le vêtement sexy, le vêtement plus neutre. C'est une des leçons que je retiens de cette histoire, c'est que les femmes ont conquis cette liberté de choisir et qu'elles ont posé aussi le droit de ne pas porter le pantalon. Jusqu'à, donc, très récemment, apparaît donc cette revendication chez Ni Pute Ni Soumise d'un droit à la féminité, d'un droit à la jupe sans être inquiétée, sans être insultée.
En particulier dans les banlieues. Dans les quartiers, dans comme on dit.
Et je dirais surtout dans une tranche d'âge très fragile, hein, l'adolescence, le collège, où là, les filles mettent toutes hein, le pantalon pour éviter d'être embêtées par les garçons.
Au même moment, d'ailleurs, un certain nombre de garçons commencent, je ne sais pas si c'est simplement pittoresque ou si c'est instructif, à réclamer le droit à la jupe.
C'est instructif, c'est politique aussi, le droit à la jupe des hommes. Le droit des hommes à ne pas porter le pantalon et à interroger cette grande renonciation masculine que nous avons évoquée tout à l'heure, qui correspondait à l'ordre bourgeois. Allons-nous sortir de cet ordre vestimentaire bourgeois ou pas avec la jupe pour hommes?
Nous avons concentré, Christine Barr, notre réflexion historique sur la France. Mais il est évident que on pourrait l'élargir, ce sera peut-être l'occasion d'une autre rencontre un jour, à l'ensemble de la planète. Il y a des civilisations où les femmes depuis toujours sont en pantalon et d'autres où le port du pantalon est châtié, réprimé jusqu'au coup de fouet. Merci de votre présence à ce micro. Votre livre majeur s'appelle « Une histoire politique du pantalon » et vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez également donné concomitamment un livre qui s'appelle « Ce que soulève la jupe chez Autrement ». Et je rappelle que vous avez publié Les Garçons. Et puis j'ai cité Sonia Riquel, qui a publié un petit livre qui s'appelle Le pantalon, une histoire en marche. C'est vraiment une histoire en marche, je crois que nous l'avons démontré. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores qui ont été utilisés sur le site internet de France Culture, à la page Concordance des temps, que maintenant vous pouvez plus aisément retrouver, je crois. Et vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec la précieuse collaboration de Meryl Moneghetti, celle aussi de Cyril Baird, de Jérôme Bonnetin, d'Alexandre Dang à la prise de son, et pour les archivinas, Catherine Louis.